Alors, je voulais aussi revenir sur l'importance du corps. Et dernièrement, Marie-Thérèse me disait, quelqu'un avait posé une question qui était, pourquoi médite-t-on assis? En fait, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. D'abord, l'importance du corps. On fait des exercices un petit peu. Bon, c'est... Le corps ne peut mentir. Le corps ne peut mentir, c'est-à-dire qu'il y a en nous des ressentis, des sensations qui laissent des empreintes, qui ont laissé des empreintes. Et lorsqu'on arrive sur le coussin, c'est pas quelque chose de mécanique, la relation au corps. C'est justement comprendre que on fait l'expérience de l'esprit à travers le corps et que le corps est aussi l'esprit. Que le corps n'est pas quelque chose où l'esprit serait. Oui, souvent on pense qu'on a un corps et on a un esprit dans le corps. Ça, c'est la représentation habituelle qu'on se fait du corps. Voir le corps, on le traite un peu comme une mécanique, hein. Longtemps dans la culture aussi occidentale, on a considéré le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. La méditation, c'est pas seulement développer, non, dans beaucoup aussi d'approches du corps, on est juste le corps. C'est encore une autre façon de se couper du corps et de l'esprit. C'est-à-dire, on va s'occuper du corps, donc on va faire plein de choses avec le corps, oui. Mais où est l'esprit? Car tout se passe dans l'esprit. Lorsque se place pour méditer. Donc il y a plusieurs façons, bien sûr. C'est l'approche traditionnelle. C'est ce qu'a montré le Bouddha. On s'assoit parce que habituellement, on est toujours en train de courir après quelque chose. Ça, c'est la base aussi de l'enseignement. On est agité, on est dans toutes sortes de distractions. Il me disait, on est dans le dernier étage tout le temps, où on est toujours en cinquième ou en sixième, donc on ne vient jamais au point mort, et on ne prend jamais le temps de prendre l'ascenseur pour aller visiter autre chose. C'est une façon de dire. Mais, donc, s'asseoir, se poser, poser le corps, c'est une façon d'entrer en contact avec le ressenti du corps. Mais de voir aussi que le corps nous montre autre chose que le corps lui-même. Ce que le corps va nous montrer, c'est comment on est tendu, comment on est séparé de son ressenti. Oui? Comment aussi nos pensées ou nos émotions influencent directement le ressenti du corps. Donc on ne s'occupe pas juste de détendre le corps parce que le corps, c'est bien de le détendre, mais c'est parce que le corps nous montre autre chose. C'est aussi une façon de ne pas fuir. Oui, assis, pas bouger, comme on dit dans le zen, assis, pas bouger. Très bien pour l'ego, ça. Arrête, stop. Assis, pas bouger. Non mais. Et ça, on a besoin de se le dire, de l'entendre et de le faire aussi, parce que on est tout le temps en train de bouger. Bouger, ça veut dire, dans le sens où on a dit, on fuit, d'accord? Fuir. Et même dans le mouvement, c'est facile de fuir le corps, parce que c'est toujours ça qu'on fait. Donc, s'asseoir, c'est vraiment couper des automatismes. Et c'est faire face au corps et à l'esprit. Et à tout ce que ça comporte, hein, donc les émotions, les sensations, etc. Et forcément que on est un peu mis au pied du mur. Alors que dès qu'on commence à bouger, à chanter, ah ben oui, on pourrait méditer. Mais tout dépend de ce qu'on entend par méditer. Là, c'est pas méditer, juste faire plaisir, avoir des sensations agréables ou faire ce qu'on fait déjà d'habitude. C'est justement arrêter tout ce qu'on fait d'habitude. Couper court. Ce sont des termes qu'on va retrouver. Stop, arrête, coupe court, assis, pas bouger. C'est le petit chien de l'esprit. Pas bouger, arrête. Stop. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien, c'est que en général, ça va dans tous les sens. Et quand ça va dans tous les sens, même quand on s'assoit, on peut avoir l'impression d'une folie intérieure. Et c'est juste. Nous sommes fous. Nous sommes fous, nous sommes malades. Et tout ça vient du fait que, justement, on ne prend jamais le temps de regarder cette folie de façon directe, sans la juger. D'accord ? Car la méditation ne va pas dans ce sens. Elle n'approche pas les choses d'une façon morale, au sens habituel du terme. C'est pas que c'est mal ou que c'est bien. C'est juste regarde, reconnaît et agit de sorte à vivre moins dans le mal-être et la souffrance. Hein, c'est ça qui est important. Donc on passe par le corps, oui, inévitablement. Parce que le corps n'est pas séparé de l'esprit et parce que dans la détente du corps, il y a une vérité incontournable qu'on fuit sans arrêt. C'est facile de fuir dans le mouvement. C'est facile de fuir dans toutes sortes d'activités. Dans l'assise, c'est plus difficile. Vous êtes là, pas bouger, ça dure, et là, vous commencez à être obligé de voir les choses. Ou alors, vous avez beaucoup de résistance, et vous, même pendant des années, vous arrivez à rien voir du tout. C'est possible aussi. Tout est possible, en fait. Oui. Parce que la cuirasse, elle est forte. La carcasse, elle sait. Hein. Vous êtes là à résister à votre propre vérité. Non, je ne peux pas voir ça. Non, je ne peux pas me dire ça. Ce n'est pas aussi conscient, mais c'est ça que ça signifie. C'est-à-dire, toutes les stratégies, ça commence à se voir. Alors, au début, ça commence à être agréable, peut-être, parfois, d'être comme ça. Puis, tout d'un coup, ça devient, ça fait flipper, ça fait peur. Et puis, ça me demande totalement de me remettre en question. C'est pourquoi méditer, c'est une totale remise en question par le simple fait qu'on rentre en contact avec sa propre vérité, mais on peut résister à ça aussi. Ça, c'est la ténacité de l'ego. On pourrait dire ça comme ça. Qui dit, mais, oula, attends, ton monde va s'écrouler. Tout va barrer en live, enfin, je sais pas quoi, mais ça va être. Et puis peut-être on commence à lâcher. Parce que lâcher, c'est lâcher en profondeur. Et quand on lâche en profondeur, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout craque. D'accord? C'est pour ça, parfois on peut pleurer, parfois on peut avoir des émotions qui viennent. Bien sûr. Méditer, ça n'est pas créer des émotions artificielles de méditant. Depuis que je médite, je suis zen, je suis cool. Mais ça, c'est des conneries. C'est des histoires qu'on se raconte. Alors, on se raconte déjà des histoires, puis maintenant, on s'en raconte d'autres, mais de toute façon, le Bouddha rigole. Il dit, vas-y, t'as encore besoin d'un petit coup de samsara dans le monde des dieux. On dit, ah, je suis arrivé dans le monde des dieux, je médite. Tout va mieux, tout va bien. Puis, nous prenons conscience que nous avons des empreintes, ouais, que nous avons des conditionnements, des habitudes, des automatismes, et que c'est tout ça qui crée le mal-être et la souffrance. Et en même temps, nous pouvons arriver à développer une autre relation à tout cela. Ça, c'est la formidable, l'extraordinaire bonne nouvelle. Nous ne sommes pas que ça. Nous pouvons aussi... Mais néanmoins, si vous vous rappelez le mythe de Narcisse qu'on a fait la fois dernière, il nous faut traverser le Styx, il nous faut traverser le fleuve des enfers, le détester... Il nous faut traverser ce que nous détestons. Et ce que nous détestons, ce n'est pas toujours ce qu'on croit habituellement. On veut la vérité, mais on la déteste en même temps. On veut être qui on est, mais on veut quand même garder des petits comptes à soi quelque part. Or, être présent, c'est quoi? C'est à 100% totalement. Alors, vous voyez? À 100% avec les ombres, les clartés, à 100%. Donc, ne pas avoir peur des ombres. Parce que sinon, on va toujours se raconter qu'on sera là, mais d'une façon qui est juste confortable. Mais dans la vie quotidienne, on sait que le confort, on doit toujours faire avec le fait qu'on n'est pas dans le confort. Mais c'est ce qu'enseigne aussi la pratique. Elle dit, tu ne seras pas dans le confort, mais je vais t'aider. Si tu as le rappel de la pratique, de cet esprit de pratiquant, alors tu sais que dans la vie, tu devras faire face à ce qui va se présenter et que tu vas avoir des ressources pour résoudre ce qui va se présenter. Et ça n'aura pas de fin, ça. C'est pas qu'un jour, enfin, ça y est, on plus rien. On dit tant que le samsara soit vidé, on sait qu'il ne sera jamais vidé. D'accord? Et c'est là, après, où forcément, le cœur s'ouvre. Si on lâche, pourquoi immédiatement après la méditation de l'assise, on va nous proposer aussi de méditer bodhicitta, le cœur ouvert? Parce qu'inévitablement, c'est déjà présent. Si vous méditez bien, ça vient naturellement. C'est même pas quelque chose qu'on a provoqué. C'est que naturellement, ça craque, tout s'ouvre. Et là, le cœur, il a besoin d'être entraîné à nouveau dans la vacuité pour ne pas se perdre. Et pour ne pas se perdre dans l'émotionnel uniquement. Pour dépasser l'émotionnel. D'accord ? C'est ça un cœur de bodhisattva. Dépasse le cœur émotionnel, mais il faut rentrer dans l'émotionnel. Au sens, il faut juste reconnaître que c'est là. Et le corps en cela nous aide, parce que si vous êtes là tranquille, et même si votre pensée veut contrôler les choses, mais bien sûr ça peut être comme une atrophie. Hein. On est dans, les personnes ont une atrophie, c'est-à-dire tout est là, tout est... Mais si on se laisse faire, par sa propre sagesse, hein, parce qu'en plus, c'est ça qui se passe. C'est, personne ne fait rien. C'est juste que soudain, l'espace qui est déjà, qui précède déjà toutes ces constructions, commence à faire son œuvre et commence à déconstruire. Hein? Commence un petit peu à renier, on va dire, toutes les formes qu'on a mis en place finalement. Une déconstruction. Quelque chose s'écroule, qu'on tenait peut-être même à bout de bras. Si on va dans la détente, ce qu'on a construit à bout de bras, ça va s'écrouler. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on souhaite? Non, ça on ne le souhaite pas. On souhaiterait que ça se passe sans tout ça. Ça c'est de l'illusion, c'est illusoire. Hein? C'est l'expression « tourne pas » qui disait « méditer, c'est une opération à cœur ouvert ». C'est fort comme terme. Hein? C'est un cœur mis à nu. C'est pas qu'on va se blinder encore plus, mais c'est qu'on va se dépouiller de tout ce qui nous... Donc on va forcément vers des phases où on va être confronté à cette fragilité humaine que nous sommes, et heureusement, l'enseignement nous permet aussi, et l'expérience nous permet d'aller au-delà de ça. Mais il nous faut traverser ça. Et parfois on vient aussi pour ça, ça dépend, il y a plusieurs façons d'entrer dans la pratique. Parfois on vient parce qu'on a déjà été très bouleversé, parfois on vient, il y a plein de façons d'arriver, mais la façon dont on arrive évolue aussi ensuite avec l'expérience qu'on fait des choses. Donc on pourrait, pourquoi méditer, c'est dans toutes les postures, à condition qu'on ait compris ce que ça voulait dire méditer. Oui. Donc c'est au sens où méditer, c'est pas juste associé à une façon de à comment utiliser son corps. Hein, vous comprenez ça? Donc quelque part, on pourrait méditer. Bien sûr, on prend la posture assise et pour toutes ces raisons que nous avons dites. Mais évidemment, qu'on soit dans la vie quotidienne ensuite, notre esprit continue la méditation. Elle n'est pas dépendante de l'assise. Mais l'assise est le laboratoire nécessaire en comparaison d'un monde agité où nous ne savons plus très bien où nous sommes. Où c'est confus, où c'est chaotique, et où on perd complètement justement le lien avec une expérience plus profonde de ce que nous sommes. Donc on a besoin de revenir encore et encore au coussin, encore et encore à la respiration, développer la patience, développer... parce que c'est évidemment, si vous, quand on est assis comme ça pendant 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, etc., etc., qu'est-ce que... ça fait lâcher, être obligé de lâcher. Ouais. Mais peut-être que vous êtes coriace, il faut continuer encore. C'est ça les retraites, c'est pour les gens coriaces en fait. Allez encore, il faut lâcher. Et quand on fait dans des temps de méditation, on voit bien qu'au fur et à mesure qu'on lâche ou que ça lâche à notre insu, car c'est ça surtout, ça lâche à notre insu. Et ça peut mettre en colère. Tout d'un coup, les choses... ça lâche à notre insu, mais on est juste en colère après sa propre sagesse qui nous a fait lâcher à notre insu. Il n'y a pas de raison de lui en vouloir, c'est la bonne direction. Par contre, il faut continuer, parce que à chaque fois qu'on s'arrête, c'est comme si on s'arrêtait en plein désert, comme si on s'arrêtait après avoir, comment dire, vu un certain nombre de choses ou déconstruit un certain nombre d'automatismes. Ben, il nous faut aussi continuer, c'est pas fini pour autant.